Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce jeudi 16 septembre. Pour vous accompagner, Bertrand Tunganamé et Jean-Noël Ducasse. Après l'actualité, comme d'habitude, nous aurons notre magazine des sports qui vous sera proposé par Jean-Noël Ducasse. Nous allons parler également de l'économie avec Nicolas Perpich, mais il s'agit de l'économie australienne en ce milieu de semaine. Et je vous propose également un entretien avec la docteure Vera Sistenich qui animera des débats dans le festival pour la paix qui commence ce jeudi. Mais sans plus tarder, l'actualité de ce jeudi. Au sommaire, l'Australie s'engage à acheter des sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre d'un nouvel accord de sécurité avec les USA et la Grande-Bretagne, aux grandes dames de la France avec laquelle l'Australie avait conclu l'accord du siècle. Et levé du confinement dans 12 localités de Sydney et mise sous cloche des localités régionales en Nouvelle-Galles du Sud et au Victoria. Et nouvel acte de la course aux armements entre les deux Corées, ponctué par des nouveaux tirs de missiles balistiques. Le Premier ministre australien Scott Morrison s'est joint à son homologue britannique Boris Johnson et le président américain Joe Biden pour annoncer la naissance d'un nouveau partenariat de sécurité et de défense. Sous l'égide de la nouvelle alliance, appelée AUKUS en abrégé, l'Australie devrait avoir accès aux technologies nucléaires américaines et britanniques équipant une nouvelle flotte de sous-marins à propulsion nucléaire australien. Scott Morrison a tenu à préciser que le nouveau développement ne signifie en aucun cas l'entrée de l'Australie dans le cercle de puissance nucléaire. Il a ajouté également que la construction de la nouvelle flotte des submersibles se fera sur le sol australien.
This will include an intense examination of what we need to do to exercise our nuclear stewardship responsibilities here in Australia. We intend to build these submarines in Adelaide, Australia, in close cooperation with the United Kingdom and the United States. But let me be clear, Australia is not seeking to acquire nuclear weapons or establish a civil nuclear capability. And we will continue to meet all our nuclear non-proliferation obligations.
De par cette alliance, l'Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne signifient qu'ils veulent approfondir davantage leurs liens de défense et de sécurité. Joe Biden, chef d'État américain, a déclaré que l'alliance visait également à reconnaître l'impératif d'assurer à long terme la paix et la stabilité dans l'Indo-Pacifique.
We need to be able to address both the current strategic environment in the region and how it may evolve. Because the future of each of our nations, and indeed the world, depends on a free and open Indo-Pacific enduring and flourishing in the decades ahead.
Dans sa déclaration, le Premier ministre britannique Boris Johnson a rappelé, quant à lui, que les sous-marins australiens à propulsion nucléaire s'inscrivent dans un cadre de respect des obligations de non-prolifération nucléaire.
And the first task of this partnership will be to help Australia acquire a fleet of nuclear-powered submarines, emphasizing, of course, that the submarines in question will be powered by nuclear reactors, not armed with nuclear weapons. And our work will be fully in line with our non-proliferation obligations.
De par la nouvelle alliance entre Canberra, Londres et Washington, l'Australie a renoncé au passage à une commande faramineuse de sous-marins français signée en 2016. En France, de nombreuses réactions teintées d'amertume, de sentiments de déception et même de trahison ne se sont pas fait attendre. Franck Alexandre, RFI.
coup de poignard ou de Trafalgar, toutes les expressions faisant référence à un très mauvais coup illustrent aujourd'hui cette déroute tricolore. Le méga contrat avec l'Australie a subitement coulé à pic. Paraphé en 2016 par Canberra, il prévoyait l'acquisition pour 50 milliards de dollars de 12 sous-marins d'attaque à propulsion classique fleuron de Naval Group. Un accord stratégique liant la France à l'Australie pour des décennies avait alors été acté. Ce contrat a cependant connu un destin chaotique. Mais en juin dernier, le Premier ministre australien s'était engagé à poursuivre cette alliance. Visiblement, l'administration américaine est entre-temps passée par là. La montée en puissance de la Chine, sa volonté d'expansion dans le Pacifique et le bras de fer qui en découle avec les États-Unis ont changé la donne. Washington, qui à ce jour n'avait jamais vendu de sous-marins nucléaires, impose désormais à ses alliés régionaux son matériel. L'annonce de cette rupture a néanmoins sidéré le camp français. Après cette terrible humiliation, reste à savoir si Paris sera en mesure de négocier des compensations, car à n'en pas douter, la note de ce fiasco industriel risque d'être salée.
Et hier se tenait en France le sixième jour du procès des attentats terroristes du 13 novembre. Les accusés étaient invités à prendre brièvement la parole. Salah Abdeslam, le principal accusé, a profité de l'occasion pour lancer de nouvelles provocations et de justifier son action, notamment par les interventions militaires de la France contre l'État islamique. Au palais de justice de Paris, Pierre Olivier pour RFI.
Sweatshirt gris sur les épaules face à la salle, Salah Abdeslam justifie sans sourciller les attentats. On ne combat pas la France pour vos valeurs, mais parce que François Hollande nous a attaqués, mais il n'y avait rien de personnel contre les civils français. Des propos qui ont choqué David Fritz Göbinger, rescapé du Bataclan.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il, d'emblée, au bout d'une semaine de procès, il dise, voilà, il décomplexe le propos, voilà, je vous ai visé, vous n'êtes pas responsable, enfin, c'est d'une facilité et d'une violence totale, quoi. Je trouve que c'est un manque de respect envers déjà mon vécu et le vécu de toutes les victimes.
Dans le box des accusés, Salah Abdeslam poursuit. On a visé la France car les avions français qui larguent des bombes sur l'État islamique ne font pas la distinction entre les hommes, les femmes et les enfants. Il ne s'agit pas de terrorisme mais d'islam authentique. Gérard Chemla, avocat de parti civil.
Rappelons-nous que le premier attentat important en France, c'est Mohamed Merah, et qu'à ce moment-là, il n'était pas question de bombarder qui que ce soit, et qu'on est en réalité dans une constante du terrorisme djihadiste. Quand Salah Abdeslam vient dire c'est le vrai islam, qui peut imaginer que le véritable islam demande à tuer qui que ce soit ?
Salah Abdeslam conclut en regardant les victimes. Mes propos peuvent choquer, mais je veux être sincère avec ces gens qui subissent une douleur incommensurable.
Et retour en Australie et en Nouvelle-Galles du Sud plus précisément, où l'État a enregistré 1351 nouveaux cas de Covid-19 acquis localement. La Nouvelle-Galles du Sud a également recensé 12 décès et 10 parmi les dernières victimes étaient des personnes non vaccinées. Entre-temps, le ministre de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazard, a précisé que les localités régionales de Lismore et Dalbarry seront soumises à un confinement en raison d'un pic de contamination.
That lockdown will occur as from 6 p.m. today. Health has made a decision that the period of lockdown initially will be 7 days. Now the reason for that is to try and get a handle on what exactly is going on in the local areas.
Et au même moment, John Barilaro, le numéro 2 du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que le confinement allait être levé dans un certain nombre d'autres localités régionales. On signale que la Nouvelle-Galles du Sud a effectué hier 129 266 tests de COVID-19. L'État compte actuellement 1231 malades de COVID-19 admis à l'hôpital et parmi eux, 231 personnes sont en soins intensifs et 168 autres sont sous ventilation. Le Victoria, de son côté, a enregistré 514 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement. Au même moment, on signale que la ville régionale de Ballarat est désormais soumise au même type de confinement que la ville de Melbourne. Selon les responsables de la santé du Victoria, 148 des nouveaux cas répertoriés sont liés à des foyers existants. L'origine des 366 infections restantes fait toujours l'objet d'investigations. Et il s'agit du décompte le plus important au Victoria depuis le pic de la deuxième vague au mois d'août 2020. Les nouvelles infections portent le nombre total des cas actifs au Victoria à 4370. Et le dernier obstacle au projet de loi légalisant l'aide volontaire à mourir semble en voie d'être levé. En effet, la majorité des députés du Queensland ont indiqué qu'ils ne s'y opposeraient plus et le projet de loi permettant aux personnes souffrant d'une maladie ou d'un problème médical avancé, progressive et terminal d'accéder à l'aide volontaire à mourir sous certaines dispositions sera possible donc au Queensland. Au moins 59 des 93 députés du Queensland ont indiqué qu'ils soutiendraient le projet de loi avec un vote final attendu ce jeudi. Le vice-premier ministre du Queensland, Stephen Miles, a déclaré que le débat entourant ce projet de loi a été exhaustif.
I cannot think of a single piece of legislation that has been as thoroughly researched, analysed, consulted upon and considered as this one. The learnings of other jurisdictions have been taken on board and a scheme developed to suit Queensland's unique circumstances.
Le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré qu'il ne pouvait pas demander aux dirigeants mondiaux de prouver qu'ils ont été vaccinés contre le COVID-19. Cette prise de position fait suite à la décision des responsables de la ville de New York d'imposer la preuve du statut sérologique à toute personne voulant accéder à l'hémicycle de l'Assemblée générale des Nations Unies. En effet, des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, des ministres des Affaires étrangères et d'innombrables diplomates doivent se rendre à New York la semaine prochaine pour une réunion annuelle de haut niveau aux Nations Unies. Mais selon M. Guterres, il est irréaliste de s'attendre à ce que tout le monde soit vacciné.
Others come from countries where vaccines are not yet available. But the overwhelming majority of the delegations come indeed vaccinated. But this shows how dramatic the inequality is today in relation to vaccination.
Et il faut rappeler que sur les 5,7 milliards de doses de vaccins contre le coronavirus administrées dans le monde, seulement 2% l'ont été en Afrique. Et hier, la Corée du Nord a envoyé deux missiles balistiques dans la mer du Japon, imité quelques heures plus tard par la Corée du Sud. Pyongyang effectue ainsi son deuxième essai de missile balistique de l'année, seulement quelques jours après plusieurs essais d'un nouveau missile de croisière longue portée. Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU, a réitéré la préoccupation de l'ONU face à ce dernier acte de la course aux armements entre les deux Corées. L'ONU privilégie, selon Stéphane Dujarric, toujours la voie diplomatique pour trouver une solution durable à la problématique des deux Corées.
We're very much aware of the media reports and are concerned by the latest developments that we've seen. As we've said before, diplomatic engagement remains the only pathway to sustainable peace and complete verifiable denuclearization of the Korean Peninsula.
Retour en Australie, où l'homme accusé d'avoir violé une ancienne employée libérale dans le bureau d'un ministre fédéral a plaidé non coupable. L'homme, qui vit actuellement au Queensland, est accusé d'avoir eu des rapports sexuels non consensuels au Parlement en mars 2019. Son avocat a déclaré tôt ce matin à Les City Magistrates Court que son client allait plaider non coupable. Et des réformes de la loi sur l'égalité des chances seront présentées plus tard cette année au Parlement du Victoria. Ces nouvelles réformes proposées par le gouvernement de Daniel Andrews visent à interdire aux écoles religieuses de l'État de licencier ou de refuser d'embaucher du personnel en fonction de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Et à présent, un coup d'œil météo à travers les principales villes du pays ce jeudi après-midi. Perth, 15 degrés, Adélaïde, 26, Melbourne, 18, Hobart, 14, Canberra, 15 degrés, Wollongong, 18, Sydney, 18, Newcastle, 20, Brisbane, 24, Cairns, 29 et Darwin, 34 degrés. Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi. L'Australie s'engage à acheter des sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre d'un nouvel accord de sécurité avec les USA et la Grande-Bretagne, au grand dam de la France avec laquelle elle avait conclu l'accord du siècle. Levée du confinement dans 12 localités de Sydney et mise sous cloche des localités régionales en Nouvelle-Galles du Sud et au Victoria. Et nouvel acte de la course aux armements entre les deux Corées, ponctué par des nouveaux tirs de missiles balistiques. C'est tout pour l'actualité de ce jeudi. Après la pause, le journal des sports.
Quoi ? continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Des sports de ce jeudi avec tout d'abord le foot, la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain et Bruges ont fait match nul hier, un but partout. On écoute la réaction du Parisien Presnel Kimpembe sur Canal+.
On est tombé face à une belle équipe de Bruges, faut savoir aussi le reconnaître, même si on n'a pas joué notre meilleur football. Ils ont du mérite. Ce soir, ça a été un match assez compliqué, mais voilà, on a quand même pris un point et le plus important, ça reste quand même le fait qu'on n'ait pas perdu. On va pouvoir récupérer et bien préparer les matchs suivants pour pouvoir bien aborder le match face à City.
Dans le même groupe, Manchester City a écrasé Leipzig 6-3. Liverpool a battu l'AC Milan 3-2 dans le groupe B. Porto et l'Atlético de Madrid ont fait match nul 0-0. Dans le groupe C, l'Ajax Amsterdam a écrasé le Sporting Portugal 5-1 avec 4 buts marqués par Sébastien Haller, le franco-ivoirien. Cédric de Oliveira, Radio France Internationale.
Oui, c'était le premier match de sa carrière en Ligue des Champions, mais Sébastien Haller ne s'est pas laissé impressionner par l'enjeu. À Lisbonne, face au Sporting Portugal, on a vu que lui, son 1m90, ses grands compas et surtout son efficacité diabolique. En 9 minutes, il avait déjà trompé 2 fois la vigilance du gardien portugais, 4 fois après l'heure de jeu, pour signer donc un quadruplé pour son premier match de Ligue des Champions. Une performance que seul l'illustre néerlandais Marco van Basten avait réussi avant lui. C'était en 1980. Avec le maillot du Milan AC. C'est aussi une première pour un international africain dans la compétition. Haller, né il y a 27 ans en région parisienne d'un père français et d'une mère ivoirienne, a rejoint les éléphants l'an dernier après avoir été convaincu par Patrice Baumel. Après 6 sélections, il a déjà inscrit 3 buts, dont un doublé la semaine dernière face au Cameroun en éliminatoire de la Coupe du Monde. S'il maintient cette forme, il sera donc un atout pour la Côte d'Ivoire et l'Ajax Amsterdam. L'an dernier, le club néerlandais avait malencontreusement oublié de l'inscrire sur la liste des joueurs disponibles en Coupe d'Europe. Heureusement pour l'Ajax, il va cette fois pouvoir profiter de son efficacité toute la saison.
Et dans l'autre match, le Borussia Dortmund a battu Besiktas 2-1. Dans le groupe D, le Real de Madrid a battu l'Inter Milan 1-0 et Sheriff Tiras a battu le Shakhtar Donetsk 2-0. Mardi, Lille et Wolfsburg ont fait match nul. Éric Mamrut, RFI.
Ils ont évolué à 11 contre 10 durant la dernière demi-heure de cette partie suite à l'expulsion pour un deuxième carton jaune du défenseur américain de Wolfsburg, John Brooks. Lille qui jusque-là avait plutôt dominé les débats face à l'actuel leader de la Bundesliga. Une première période dominée mais de manière stérile avec un coup franc de Burak Yılmaz bien repoussé par le gardien Castells. Mais par ailleurs, pas mal d'approximations de la part de cette équipe lilloise, championne de France en titre, certes, mais qui est en manque de confiance depuis le début de la saison. Une victoire seulement en 5 matchs. Et cela s'est ressenti dans cette partie. On a eu du mal à se trouver, à avoir de la confiance au moment du dernier geste. Il y a eu, certes, plus d'occasions dans la dernière demi-heure. Un tir de Jonathan David, une tête de Yılmaz, mais à chaque fois qui ont trouvé le portier allemand, et puis un pénalty non accordé par la vidéo, un but non accordé par la vidéo, a raison, plein de petites choses qui ont fait que ça n'est pas passé pour Lille, qui reste sur cette frustration d'un match nul, 0-0. Et dans ce groupe, tout le monde est à égalité, puisque dans l'autre match, Salzbourg et Séville ont fait match nul en Espagne. Salzbourg, ce sera le prochain déplacement de Lille lors de cette Ligue des Champions.
Et puis la grande surprise, Manchester United battu par les Young Boys de Berne. Une surprise, comme dit Cédric de Oliveira pour RFI.
Oui, il n'était pas favori de ce match face à Manchester United, mais les Young Boys de Berne ont fini par dominer l'un des favoris de la compétition. Et même si l'inévitable Cristiano Ronaldo a ouvert le score, les Suisses ont inversé la tendance, en partie grâce au duo formé par Mecha Kelia et Moumine Gamaleu. L'international congolais a confirmé sa bonne forme en adressant une passe décisive au Camerounais qui a été plus prompte que Raphaël Varane pour marquer. Finalement, les joueurs de Berne s'imposeront 2-1 dans le temps additionnel pour la première sensation de cette édition. Quant à Edouard Mendy, il s'est montré solide avec Chelsea. Les Blues ont dominé le Zénith 1-0. Ça commence bien donc pour le gardien sénégalais et les tenants du titre. En revanche, mauvaise soirée pour Youssef En-Nesyri, exclu lors du match entre le FC Séville et Salzbourg. 2 cartons jaunes pour l'attaquant marocain. Et
la réaction de Ole Gunnar Solskjaer, le sélectionneur de Manchester United.
Make a mistake. And you get punished. We did that last year in Europe. We conceded a very, very, very sloppy, or two sloppy counter-attacks against Başakşehir. And we lost that game today in the last seconds. Jesse just wants to play it safe and just one misplaced pass and you've conceded a goal. And then that happens in football. In hindsight, Harry Hindsight is a very good player. So, of course, Jesse, if he can get that chance again, he'll turn and swivel and boot it the other way. We'll learn from it.
Un mot de tennis. Eh bien, après l'US Open, les tournois se poursuivent, cette fois en Europe, au Luxembourg et à Porto Rose en Slovénie, avec les dames en lice. Écoutez cet extrait de cette interview de Julien Varlet, ex-joueur pro, consultant chez Canal+. Il est avec Antoine Grenier pour RFI et il nous parle justement sur les jeunes dames du tennis mondial.
Ça me plaît parce que voilà, c'est des jeunes joueuses, toutes jeunes que en plus le grand public ne connaît pas forcément. Faut vraiment être quand même quelqu'un qui suit le tennis pour les connaître. Après, on peut regarder que dans le circuit féminin, très peu de joueuses. On a souvent de nouvelles joueuses, Krejcikova qui gagne Roland Garros, qui compte Pavlyuchenkova. Personne n'aurait pu imaginer cela. Donc je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire que ça laisse beaucoup de place. Mais quand on voit, alors faut pas oublier aussi que Fernandez, elle est un tout petit peu plus âgée, mais on retient que Raducanu, il ne faut pas oublier que Fernandez bat quand même Osaka au passage. Osaka qui n'avait jamais perdu un match à l'US Open et sur dur. Raducanu, elle sort quand même des qualifications, ce qui n'est jamais arrivé dans un tableau féminin. Elle était 150e mondiale. Elle perd pas un set, ce qui est encore plus hallucinant, c'est que cette fille de 18 ans ne perd pas un set. Moi, je l'ai trouvée hallucinante de maturité, de gestion de l'événement. Et quand vous avez 18 ans, il y a une pression, mais monumentale. Et je trouve qu'elle a géré ça, mais de main de maître.
Enfin, un mot de l'AFL pour vous rappeler que la grande finale entre Melbourne et les Western Bulldogs aura lieu au Perth Stadium samedi 25 septembre à partir de 17h15, heure locale. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Et vous êtes toujours à l'écoute du programme en français sur la radio SBS ce jeudi 16 septembre. Il est 13h24, 23 secondes. Eh bien, nous sommes le jeudi 16 septembre et aujourd'hui commence un festival pour la paix. Et à cette occasion, je vous propose un entretien que j'ai eu avec la docteure Vera Sistenic de l'ONG Hand Up Congo qui organise ce festival. Un festival qui s'inscrit donc dans marge de la Journée mondiale pour la paix. Une journée qui aura lieu donc le 21 septembre prochain et ce festival aura lieu en ligne donc pendant une durée de 11 jours. Mais avant cela, on verra également l'économie australienne, la situation en ce milieu de semaine avec Jean-Noël Ducasse et Nicolas Perpich. Place à présent à notre première chanson, Out of Time Man par Manu Chao.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Oui, bonjour, Jean-Noël.
L'OCDE a fait appel à l'Australie pour hausser le taux du GST, la TVA, et des bénéfices pour les sans-emploi.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, c'est intéressant parce que le chef de cette organisation, c'est l'ancien ministre des Finances australien, Matthias Cormann, qui faisait partie du même parti politique, les Liberals, qu'au gouvernement maintenant ici en Australie. Et donc, ils ont fait appel au gouvernement de faire monter le taux du GST pour essayer, pour aider à payer les dettes du gouvernement après qu'ils ont été obligés d'emprunter beaucoup des millions, des milliards de dollars pour soutenir l'économie avec la pandémie. Donc, ils disent que ça va en fait aider les business et qu'ils vont pouvoir même faire baisser les impôts encore un peu plus, les autres impôts. En plus de ça, le groupe qui est basé à Paris, on fait appel au gouvernement de monter les bénéfices pour les chômeurs et aussi de faire une revue de la Banque centrale. Parce qu'ils disent que la Banque centrale, en fait, n'a pas très bien performé depuis plusieurs années. Et donc, ils pensent que si le gouvernement fait toutes ces choses-là, l'économie va commencer à grandir de nouveau, mais il faut des réformes structurelles. L'OCDE est d'accord avec la Banque centrale et des économistes que à cause des confinements en Nouvelle-Galles du Sud et au Victoria, l'économie nationale va rétrécir un peu cette année, mais quand même, ils pensent que avant la fin de l'année, l'économie va grandir par à peu près 4% et 3,3% l'année prochaine. Le trésorier fédéral Josh Frydenberg, par contre, il n'est pas très content avec l'OCDE. Il dit que bon, c'est sûr qu'on ne va pas faire monter la GST, ça ne fait pas du tout partie de l'agenda du gouvernement. Ils vont continuer à essayer de couper les autres impôts pour les salaires et aussi pour les compagnies. Mais il a dit que oui, peut-être, ils allaient faire une revue de la Banque centrale, que selon l'OCDE, n'avait pas achevé ses cibles économiques depuis plusieurs années. Donc, on va voir là maintenant comment ça se passe et si vraiment le trésorier Josh Frydenberg fait exactement ça et s'il y a d'autres réformes structurelles. Mais bon, ce qui est clair, c'est que le gouvernement n'a aucune intention de faire monter le GST qui est actuellement à 10%.
Et puis, Nicolas, une situation précaire pour l'industrie du ski?
Oui, tout à fait. Ben, ça fait maintenant deux hivers qu'il y a eu presque personne sur les pistes. Pas beaucoup de touristes autour d'Australie, limité au moins, et pas du tout de touristes internationaux. Donc, selon l'industrie, ça va être difficile pour ce secteur de récupérer parce que d'habitude, c'est une industrie qui contribue 2 milliards de dollars à l'économie australienne et ça emploie à peu près 20 000 personnes. Et il y a le Snow Sports Industries Australia et ils pensent qu'en fait, l'industrie entière est menacée. Donc, pas juste les grandes stations de ski et les hôtels sur les montagnes, mais aussi les petits magasins qui vendent des habits de ski et l'équipement de ski dans les grandes villes. Et donc, ils disent qu'après 2 ans où ils ont été carrément fermés, ça va être impossible pour tous les business de survivre. C'est vraiment compliqué. Même au Victoria, où on peut aller sur les pistes, bon, quand il n'y a pas de confinement, il faut montrer qu'on a un test négatif de COVID-19 avant qu'on peut aller sur les pistes. Donc là, ils font appel à plus de soutien du gouvernement. Et en fait, ils voudraient que l'industrie du ski soit traitée comme le secteur de l'aviation, où ils ont eu beaucoup, beaucoup plus de soutien. Parce qu'ils disent qu'il y a des dizaines de milliers de jobs qui pourraient être perdus. Et ils disent que c'est important que les business qui ne sont pas sur la montagne, comme ces magasins qui vendent des habits et des après-ski en ville, ils ont besoin de soutien aussi, eux. Parce qu'il y en a certains où ils ont perdu 90% de leur business. Et en plus, même si le confinement est levé, bientôt, dans les mois à suivre. En même temps, l'hiver sera fini, ils vont devoir attendre jusqu'au mois de juin de 2022 avant de pouvoir rouvrir et commencer peut-être à récupérer un peu d'argent et recommencer leur industrie, on espère en tous les cas.
Merci pour cette analyse, Nicolas. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et c'était Alors on danse par Stromae sur les antennes de la radio SBS ce jeudi 16 septembre. Temps à présent pour une courte pause, mais restez à l'écoute car après la pause, je serai en conversation avec la docteure Vera Sistenich pour parler d'un festival pour la paix qui commence en ligne ce jeudi.
Vous êtes avec SBS French.
My guest is Dr. Vera Sistenich, team leader, Hand Up Congo's Building Healthy Congo Initiative. Welcome to SBS Radio, Dr. Sistenich.
Thank you very much, Bertram. Great to be here.
You are almost a regular on our radio programs, but now we're catching up ahead of a peace festival, the Raising Peace Festival, an 11-day event that will be exploring the significance that peace has to First Nations people, women, youth, refugees, and the environment. Tell us about this event.
This event should be very interesting and has a diverse audience as well as diverse participants. So I myself am participating as team leader of a project of a small NGO that I work with called Hand Up Congo. I'm a specialist in emergency medicine. Since 2015, I have been working on emergency medicine education program based in the Democratic Republic of Congo. Why that is relevant to the Peace Festival, I suppose. I suppose peace means different things to different people, but the concept is for human beings to thrive in their life and health and work and culture and spiritual and social well-being. A background of peace within their environment is really quite fundamental to allow them to thrive in all of these ways. In that sense, our project, which is an education project to educate health practitioners in the Congo to treat their own people in that way, helps to promote peace in a health sense.
Because this is an international festival with peace and conflict events going on right around the world. Regarding the Democratic Republic of the Congo, the First Nations people of the Congo, the eastern part, the Pygmies, in daily life subjected to discrimination and mistreatment. And in times of conflict, they are usually the first casualties in the ongoing conflicts. How does this event relate to First Nations people of Australia?
For First Nations people in Australia and also elsewhere, they often represent a population that have to fight or work particularly hard for peace. There are many things in the systems around them that are either by history or by conscious or subconscious engineering designed or structured in such a way that does not facilitate the health or the peaceful lives or the peaceful thriving of these populations. So there'll be many events within the festival discussing how peace does not exist for many First Nations peoples here in Australia and elsewhere, and what the factors are that are working against this thriving environment, and what can be done to help nurture this sort of environment that would allow for them to thrive. And this is both for First Nations peoples themselves, and also how we as participants in the communities, either around or in which they live, can also help promote their thriving.
It's an 11-day event with a lot of activities, and it will be held in the sidelines of the International Day of Peace, which is on the September 21.
This year is going to be an online event because of, you know, our current lockdown situation. So I'd encourage anybody to jump online, have a look at these events, and there's a whole suite of them, and for you to pick and choose and join and participate and comment on those events available.
And the Peace Festival will feature a lot of activities, events, workshops, and some of which you will moderate. And there's also a French-American peace and humanitarian specialist and author, Séverine Autessert.
Actually, we have recently, as a group, come into contact or been made aware of a book called The Front Lines of Peace by a humanitarian worker, Séverine Autessert. We have been quite inspired by her thesis, which she has developed experientially through her work. Just to summarize my understanding, at least, of what Séverine is saying, is that quite often peace-building exercises come in a very top-down form. So in the form of, let's say, the United Nations or the World Health Organization or the International Committee of the Red Cross or these very large and important bureaucratic organizations with a lot of connections, resources, money, and authority descend on humanitarian settings to try to instigate change from a very top-down, predefined, and authoritative approach. And Séverine's experience and successes have laid in trying to nurture much more grassroots movement towards peace, a sort of bottom-up or inside-out. And why we were quite inspired by this is that through my work with Lucy Hobgood-Brown, one of the co-founders of Hand Up Congo, and our friends and participants in the Congo, what we strive to do from the very beginning was to look at the needs of the local community, to go and look and ask what the local doctors, nurses, medical students, patients, and so on, what they wanted for their community, what they prioritized as their needs, how they thought they could best be educated. And we decided from the beginning that a measure of the success of Hand Up Congo in this project is the disappearance of the need for us. We want to disappear in the way that we've set up the project so that one day we're not needed anymore. Quite often, top-down organizations, over the years, their presence becomes greater and greater and larger, and the dependence of the local population on need for them seems to improve from year to year. But in our project, we have tried to seek Congolese doctors from all over the world, based in South Africa, Congo itself, in Francophone Africa, in France, and so on, and local nurses and so on, to try to empower them and educate them in how they can educate themselves to create an emergency service that is very well suited to their resources and their needs.
Yeah, and building on what you just said about developing programs based on people's needs, one of the most successful training programs that I learned about that you've put together stems actually from a direct observation of an incident involving Papa Wemba, the famous musician who tragically died on stage or while performing. And through observation, you realize that had there been people properly trained, maybe this death could have been, you know, maybe his life could have been saved had there been someone trained in basic first aid intervention.
This is one of the events that, or because it was so well known. So Papa Wemba is one of the great music icons of the Congo. He was giving a concert in Côte d'Ivoire when he collapsed on stage. The people came to his help, paramedic and other, you know, healthcare workers. We found that on the video footage that as much as the local people tried, the resuscitation efforts were not particularly evidence-based, mainly because people had not been trained in basic first aid or in advanced first aid. And a lot of the help that they were giving was sort of waving a towel to try to give him some oxygen and so on, when we know that that particular intervention wouldn't have been particularly useful for Papa Wemba. So when we went to the Congo, we tried to look for opportunities that would highlight and indicate and reveal the sorts of needs that local population needed. And when we touched on this particular event of Papa Wemba, who passed away, everyone said, gosh, maybe if he had some quite basic first aid, then he need not have died, or at least he could have been taken to a hospital where he could have had further treatment. So in our education program, we look for opportunities to show people and encourage people to think about their own needs and their own situation, and more importantly, to then train them to train people around them in a way that they would find effective. And also, Congo's medical health system is quite a low-resource system, and there's no point bringing technologies that are just simply not realistic in the environment that we're working in. So we've encouraged the local population to be innovative and resourceful and maximize the effectiveness of what they already have in very basic medical equipment, combined with good knowledge, can really go a very long way and save lives.
Yeah, I can't help also by touching on another hobby of yours, but that is also contributing very positively to the communities there, beekeeping. And you also run a project that's one of your pet projects, but that turned into something humanitarian and big in its effect.
Here in Sydney, where I live, there is a little movement where people keep beehives in their backyards. It's been going on for maybe 10 or 15 years now, when really people here in the city felt, oh, you know, bees, you tend to think of them being out in the countryside or in forests and so on. But it was appreciated that bees can really thrive in the city, and it's quite popular now to keep beehives in your backyard and so on. So I started my own beehive 7 or 8 years ago, and it was very successful and produced a lot of honey. And I thought to myself, oh, gosh, I've got so much honey. What should I do with all this honey? So I decided to try my hand at a little bit of a social enterprise. So I created a label, a honey label, called Kuji Bees for Congo, because I lived in a suburb called Kuji, which is a beautiful place by the seaside. And I sold these jars of honey and put all the money towards the emergency medicine education project in the Congo. And it really took off. I think people like the concept of honey. They can buy a gift, and they like the idea that the money went to a good cause somewhere far away. And then one year, when Lucy and I and the team were traveling around in the Congo, we came across a Congo beekeeper who was actually the president of the Congo sort of beekeeping association at the time. And he was training many beekeepers to keep bees in a sustainable way, to produce food and also create livelihoods for people. So we joined up with him and his team, and we were also able to fund his team traveling to a remote province where we work in the Congo to help educate people there in a province called Equateur to keep bees and to produce honey in a sustainable way. And we also involved the pygmy population and wanted to empower women as well. So that was how a little home hobby of mine got translated into a part of Hand Up Congo's work. And that was just a fun and a fortuitous way that that grew organically.
And how can one register to participate and get involved in this?
You're very welcome to come to our website. It's called handupcongo.org. So it's just handup.org, and have a look there, and you can click on a tab that says projects, and through that you can see our beekeeping project, our emergency medicine project. There's also microfinance and lots of community building projects as well. So you're most welcome to browse and leave some comments or get in touch with us.
Dr. Vera Sistanich, thanks for taking the time to talk to us today.
Thank you, Bertram. It's been a real pleasure. Thank you.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBSFrench.
À présent, un rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi. L'Australie s'engage à acheter des sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre d'un nouvel accord de sécurité avec les USA et la Grande-Bretagne, aux grandes dames de la France, avec laquelle elle avait conclu l'accord du siècle. Levée du confinement dans 12 localités de Sydney et mise sous cloche de localités régionales à Nouvelle-Galles du Sud et au Victoria. Et nouvel acte de la course aux armements entre les deux Corées, ponctué par des nouveaux tirs de missiles balistiques. Voilà, le temps de nous quitter en musique avec « Je suis revenu » par Raphaël. Merci de votre compagnie ce jeudi après-midi. Prochain programme, c'est samedi à la même heure, entre 13 et 14 heures. Bon après-midi et à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.